Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Pour notre message d'aujourd'hui, je voudrais l'intituler « Tu es invité ». Chacun de nous, on a reçu une invitation de la part de Dieu. Il y a beaucoup d'invitations. On est surtout invité à le rencontrer, à lui faire confiance, apprendre à le connaître, et plein de choses. Et dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus donne un certain nombre d'enseignements. Il nous est dit qu'il était à enseigner au bord de la mer. Autant ici, c'est au bord de la mer, un autre endroit qu'on verra plus tard, c'était il était simplement invité à un repas. Nous avons maintenant dans notre style d'église, de la plupart des églises contemporaines, nous fonctionnons surtout avec une vie chrétienne basée sur les réunions. On construit, on cherche des lieux pour se rencontrer, ensuite on a des horaires fixés et on a des endroits où on se rassemble, on s'assoit, on chante, on prie, on écoute. Mais je voudrais insister sur le fait que la vie chrétienne, c'est bien plus que ça. Et ça se passe la plupart du temps, et pour la grande majorité de notre vie, ça se passe ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une vie chrétienne plus efficace simplement en multipliant les réunions ou en rajoutant les durées. Et donc, nous sommes invités à voir Dieu dans notre vie de tous les jours. Et le Seigneur mettait étroitement ensemble des temps de vie, on dirait entre guillemets, normal, et des temps spirituels, parce que les deux doivent se mêler. Donc, il a donné des enseignements. Il a commencé par enseigner d'une façon qu'on appelle des paraboles. Il donnait une petite histoire. Il parlait, par exemple, ici dans le texte, de la semence, des oiseaux, la façon dont ça grandit. Et donc, au bout d'un moment, on peut se dire, mais où veut-il en venir? Quelle est la réalité de ça? Peut-être nous qui connaissons un peu la parole de Dieu depuis quelques années, on voit tout de suite les implications. Mais pour les gens, c'était pas évident tout de suite de dire, ah ben oui, la semence c'est la parole de Dieu, la terre c'est notre cœur, etc. Donc, à un moment, les disciples viennent et ils disent, mais explique-nous, c'est quelque chose qui est mystérieux. Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et donc, il leur explique ce que je viens de vous dire, que c'est la semence, c'est la parole, nos cœurs, c'est le terrain, etc. Ensuite, il donne d'autres illustrations encore, une lampe qui est sur le chandelier, la croissance de la semence, il donne un exemple sur le grain de sénévé, et puis la journée se termine, et voilà, sur le soir, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et nous, on a l'impression, ça y est, l'enseignement est fini, le maître a enseigné, et maintenant, la journée est terminée, on va faire un voyage pour nous rendre où on doit aller. Et c'est là que c'est important pour nous de réaliser que c'est un tout. Ce qu'on entend et ce qu'on va vivre, c'est un tout. En fait, il leur dit, et maintenant, mettons en pratique ce qu'on a entendu. Il ne dit pas comme ça, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Quand il dit « passons sur l'autre bord », il leur a tellement expliqué des choses sur la parole que voilà, quand moi, le Seigneur Jésus, je dis une parole, ce sont des paroles qui sont esprit et vie, ça va produire quelque chose chez vous. C'est pas juste pour l'entendre et que ça prenne une case dans votre cerveau, dans le domaine connaissance spirituelle. Là, je l'ai rangé dans un tiroir. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et voilà, verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Le mot grand en grec, c'est méga. On connaît tous le mot méga, même si avant on l'utilisait peut-être pas beaucoup, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont méga maintenant, y compris dans l'informatique, bien qu'on soit déjà passé à tera et giga et de toutes sortes de choses. Mais donc, méga tourbillon, ça veut dire c'était un grand tourbillon. C'était pas juste la mer qui bougeait un tout petit peu. Les flots se jetaient dans la barque. Imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà fait du bateau, mais si vous avez fait du bateau, un minimum, dès que ça commence un peu à secouer, on est déjà moins à l'aise. Mais ici, il nous est dit, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La barque se remplissait d'eau. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme, un méga calme. De la même façon que le diable a envoyé un méga tourbillon, Dieu a une réponse adéquate, de même nature et même plus grand, puisque ça domine le tourbillon. Et puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et c'est ça qui est important pour nous, ce « Pourquoi avez-vous si peur ?» Dans certaines situations qui vous arrivent, pourquoi avez-vous cette réaction? Comment ça se fait que vous ayez encore si peur? Comment ça se fait que l'inquiétude se manifeste pour toutes sortes de choses dans lesquelles nous sommes justement appelés, invités à mettre la parole en pratique? C'est pas une grande épreuve tout à coup qui se dresse devant nous et on se dit « maintenant il faut que je nourrisse ma foi, maintenant il faut que je vois comment je vais réagir, etc. » Mais découvrir que dans chaque situation, c'est un défi qui nous est lancé. Et laissez-vous poser cette question par le Seigneur pour chaque chose où vous vous rendez compte à l'intérieur de vous. Pourquoi j'ai cette réaction? Est-ce que j'ai peur de perdre quelque chose? Est-ce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose? Quelle est cette peur? Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il? Il leur dit, comment n'avez-vous point de foi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas cette confiance en Dieu par rapport à ce qui est en train de vous arriver? C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas dire juste, j'ai confiance dans le Seigneur, l'avenir éternel auprès de lui m'est assuré. C'est bien, mais maintenant, la foi, elle est utile pour le monde à venir et pour celui dans lequel nous vivons maintenant. Dans 1 Timothée 4, pardon. Mais restons encore en Marc un instant. Donc, il y a toutes sortes de choses qui font partie de notre quotidien, des épreuves qui nous arrivent. Les épreuves ne sont pas destinées à nous fortifier. Les épreuves sont, dans un premier temps, envoyées par l'ennemi pour nous détruire. Dieu n'a pas dit « je vais maintenant faire un cours de formation pour les disciples, je vais les tester dans leur foi, je vais envoyer un tourbillon et je vais voir comment ils vont réagir et ensuite on va agir pour les délivrer ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Clairement, Jésus était en train d'envahir le royaume des ténèbres qui remplissait la terre. Et donc, il était en train de répandre le royaume de Dieu. À cela, le diable répond immédiatement. Et ça se passe dans chacune de vos vies. Nous sommes dans une zone qui est la terre, une zone occupée par l'ennemi. Tout ce que nous faisons, c'est de reprendre du terrain. À partir du moment où vous êtes engagé, vous avez répondu à cet appel de Dieu, engagé pour ça, vous êtes une menace pour l'ennemi. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a des épreuves qui se manifestent. On veut vous empêcher, vous distraire, vous nuire d'une façon ou d'une autre. Donc, ce tourbillon ne venait pas de Dieu. Parce que lui, il n'avait pas comme pensée de perturber la campagne d'évangélisation de Jésus. Mais Jésus a su identifier cela. Et il s'est levé, il a menacé le vent, il a dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. À ce moment-là, tout à l'heure, Jésus disait, « Pourquoi avez-vous si peur ?» Et maintenant, au verset 41, il nous est dit, « Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Là, il s'agit plus d'une peur naturelle. On pourrait dire c'est une peur surnaturelle d'être en présence du Dieu vivant. De réaliser, là, ce ne sont plus un débat d'idées, différentes positions théologiques, mais on est en présence de Dieu qui est plus fort que ce que nous avions imaginé. Et donc, il y a un petit chant qui reprend ce passage et où les personnes qui ont composé le chant et disent « Il n'a pas dit que tu coulerais ». Et il a dit « Allons de l'autre bord ». Et donc, pour chaque situation, je veux vous dire, il n'a pas dit que tu coulerais. Tu ne vas pas couler. Même s'il y a un moment difficile, même s'il y a une épreuve que tu réussis pas du premier coup, il n'a pas dit que tu coulerais, mais il a dit « Allons de l'autre bord ». Et c'est au final, c'est à la fin de notre vie que nous pouvons réellement mesurer où on en est, quel est le parcours que nous avons fait. Mais on ne mesure pas quelqu'un dès les premiers mètres. Il s'agit de franchir la ligne. L'apôtre Paul a dit ce qui est important, c'est de rester jusqu'au bout, de finir la course. Donc, quel que soit le temps que ça vous prend, mais ayez cette confiance en Dieu que vous pourrez aller jusqu'au bout. J'ai dit, tu es invité. C'est mon premier point que je voudrais partager avec vous. J'ai appelé. Dieu dit, j'ai appelé. Il nous appelle. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Il y a des gens qui pensent, Dieu est silencieux, on ne sait pas. Au fond de nous, il nous appelle sans cesse. Sans cesse. Proverbe 1, verset 24. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. C'est la sagesse personnifiée. J'appelle et vous résistez. Dieu appelle les êtres humains sans cesse. Il les appelle. Et je tends la main et personne n'y prend garde. En langage moderne, on dit des fois se prendre un vent. Quelqu'un qui veut, il tend la main et l'autre l'ignore. Alors, ici, on a vraiment cette image de Dieu qui tend la main et l'être humain l'ignore totalement. Il passe à côté. J'ai pensé que actuellement, on est dans une situation maintenant au mois de juin, il y a extrêmement beaucoup d'activités, de fêtes, de toutes sortes. C'est un peu la conclusion de l'année. L'année humaine ici dans notre pays, elle fonctionne un peu au rythme des saisons scolaires. Vous avez par exemple des spectacles scolaires. Ce qui a été préparé pendant toute l'année, voilà, on fait une représentation. Ça peut être du théâtre, du chant, de la danse, autre chose. Donc, il y a une activité de spectacle. Ensuite, il y a des associations sportives ou autres qui fonctionnent toute l'année, de septembre jusqu'à juin. Et ça y est, maintenant, on fait une activité de fin d'année. Fin d'année, c'est en juin, parce que la reprise, c'est en septembre. Donc, on a des activités. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens pour des spectacles, ils vont faire des costumes, ils vont travailler, faire de la couture, travailler pendant des heures pour des décors. Ensuite, on ne sait pas quel temps il fera, il faudra prévoir. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il faut mettre... Donc, des heures et des heures et des heures et des heures de travail pour un moment précis. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça soit réussi. Et si personne ne vient, est-ce que c'est réussi? On a l'impression qu'on a travaillé, on a fait tout ça pour rien. Je pense qu'il peut y avoir une grosse, grosse frustration, souffrance, voire même de personnes qui ont travaillé, 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 et ce n'est pas reconnu, ce n'est pas apprécié. Personne ne vient. Et j'ai de la compassion pour ces gens et pour leur investissement. Mais mettons-nous maintenant un instant à la place de Dieu avec ce que lui, il a fait. Il a préparé. Il a travaillé, il a organisé le salut pour chacun d'entre nous. Et personne ne s'y intéresse, personne ne vient, personne ne saisit la main. On ne va pas dire qu'il est déprimé, parce que ce n'est pas dans sa nature, mais juste imaginez le contraste entre tout ce que l'être humain peut faire et l'attente qu'il en a, que quelqu'un vienne, qu'il apprécie le spectacle, qu'il participe d'une façon ou d'une autre, qu'il consomme, qu'il paye quelque chose pour, en retour du travail accompli. Et maintenant, le salut de l'humanité, le fait que Jésus soit venu, tout ce qu'il a laissé et tout ce qu'il a investi de lui-même, et puis il y a rejet, indifférence, on bouge pas. Et ben là aussi, le Seigneur nous a donné une illustration. Dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure, Luc 14, Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Donc, c'est un jour de sabbat, il ne nous y est pas dit, et maintenant, ils ont organisé une réunion d'enseignement, Jésus était devant pour leur parler. Non, c'est un jour de sabbat, un jour à part, donc ça veut dire que personne n'était au travail, mais il y avait un repas. Et il y avait quand même un repas chez un des chefs des pharisiens. C'était pas n'importe qui. Parce qu'il y avait du monde. Il nous est dit, les pharisiens l'observaient. Alors combien étaient-ils? Je sais pas. Il nous est dit, Jésus prit la parole et dit, verset 3, aux docteurs de la loi et pharisiens. Donc il y avait les pharisiens, il y avait les docteurs de la loi, il y avait certainement quelques disciples avec Jésus, il y avait du monde. Et c'était juste pour un repas. Donc, on pourrait dire dans un cadre habituel, on est ensemble, on partage un repas, et dans la conversation, il y a des sujets spirituels. Et Jésus en profite. Il nous a dit, voyant comment ça se déroule, verset 7, il adresse une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Donc il saisit l'occasion de ce qu'il observe du comportement de chacun pour donner un enseignement. Ensuite, verset 12, il dit à celui qui l'avait invité, voilà, lorsque tu donnes à dîner, à souper, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, pour qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc il sème des pensées nouvelles. Tiens, ça c'est nouveau. On était déjà habitué à faire l'aumône, ça c'était pas nouveau en tant que tel. Mais au lieu d'avoir finalement toutes les personnes qui étaient proches de lui et qui le soutenaient, ça c'était révolutionnaire comme idée. Verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus ne se laisse pas attraper, disons, par cette réflexion, mais au contraire, il rebondit sur cela pour enseigner encore une chose nouvelle. Verset 16, il répondit, « Un homme donna un grand repas, il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Vous imaginez? Les gens étaient conviés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient juste invités comme ça. Et ils étaient conviés, tout est prêt, et personne ne vient. Tous s'excusent unanimement. Ça doit simplement nous parler. Ça doit nous parler de cet appel et ce désir de Dieu de nous inviter chacun d'entre nous pour aujourd'hui, pour demain, pour les jours à venir. Mais tous les jours, il y a un appel de Dieu. Il vous appelle. Comme vous pouvez dans votre famille vous interpeller les uns les autres. Vous dire c'est l'heure du repas ou bonjour ou bonne journée ou bonsoir quand on se retrouve, cette communication entre nous parce qu'on habite ensemble, qu'on est dans la même maison, qu'on forme une même famille. Et là, on l'étend simplement un peu plus, Dieu fait partie de notre vie. On communique avec lui, ce n'est pas pendant plusieurs jours qu'on ne lui parle pas. Pourquoi, qu'aurait-il fait pour mériter ce silence de notre part? Mais Jésus a dit dans Matthieu 22, 14, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si quelqu'un vous dit « Quoi ? Vous prétendez que vous faites partie des élus ?» Ben le principe biblique est très simple. À partir du moment où nous sommes appelés de Dieu et nous répondons à cet appel, nous sommes élus. Mais il y a beaucoup d'appelés. Tous sont appelés en fait. Chaque être humain est appelé. Et si nous avons répondu à l'appel du salut, il y a encore l'autre appel, celui de tous les jours. Celui de tous les jours, c'est mon point numéro 2. Le 1, c'était « J'ai appelé ». Et le point numéro 2, c'est « J'ai voulu vous rassembler ». À un moment donné, c'est valable aussi dans une famille. On a certains événements familiaux où on aime bien rassembler tout le monde. Un anniversaire, Noël, un événement spécial, un mariage. Là, on veut rassembler. On ne peut pas rassembler tout le temps en permanence. Ça, on s'en rend bien compte. Chacun a sa vie, il y a la dispersion du travail, des études ou d'autres choses. Et puis, il y a des moments où on se rassemble. Mais dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Jésus dit, j'ai voulu vous rassembler. Comme une poule rassemble ses petits. C'est dans Matthieu 23, 37 à 39. Il se lamente sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. De la même façon que on n'a pas voulu saisir cette main tendue de Dieu, il y a aussi le refus de saisir cette occasion où Jésus veut nous prendre sous sa protection, veut rassembler ceux qui lui appartiennent. Verset 38, « Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je ne dis pas que Dieu se lasse d'appeler, mais un prophète dans l'Ancien Testament a dit justement cette chose, mais c'était pour provoquer une réaction de la part du peuple, qu'on aille de nouveau vers Dieu. Mais à un moment donné, à force d'appeler, Dieu attend maintenant de notre part une réaction, de dire, déclarer, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous sommes de nouveau dans une situation où c'est nous qui disons, oui, nous voulons de la présence de Dieu. Donc j'ai voulu vous rassembler. Il y a un temps pour le rassemblement. Le rassemblement, pour la même raison que il y a besoin des fois, quand il fait froid en hiver, qu'on veut faire un feu pour se réchauffer, il y a besoin de rassembler les braises. Ici, dans Matthieu 9, au verset 35, je vais lire jusqu'au suivant, il nous est dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » C'est encore un signe du témoignage de ce que Dieu veut faire. Il veut que la bonne nouvelle soit annoncée, que les gens puissent recevoir de lui. La guérison, par exemple. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'autre jour, simplement en allant au travail, je passe un petit village où il y avait des brebis qui s'étaient échappées de l'enclos. Alors, c'est beau de voir toutes ces brebis éparpillées sur l'ensemble de la colline, parce que l'enclos où ils étaient là, il n'y avait plus grand-chose, hein, ça avait été bien brouté, mais de l'autre côté, le foin qui était en train de pousser, là, l'herbe était verte, et c'était joli. Mais je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir de nouveau rassembler, parce que des brebis qui n'ont point de berger, elles vont dans tous les sens, elles s'égarent peu à peu. Mais donc, je me suis dit, certainement, le travail sera fait de nouveau rassembler tout cela. Mais ici, Jésus a parlé de cette compassion. Donc, plutôt, on parle de lui, on dit, il a été ému de compassion. De vraiment avoir la compassion, c'est souffrir avec, de réaliser à quel point chaque être humain a besoin d'être accompagné. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'ai voulu vous rassembler et nous voulons prier et continuer de croire pour des rassemblements, des vrais rassemblements, pas juste des réunions, mais des personnes qui se joignent les uns aux autres pour faire l'œuvre de Dieu. Premier point, c'était j'ai appelé, le deuxième j'ai voulu rassembler, le troisième c'est Jésus qui dit « Je frappe à la porte », c'est dans Apocalypse. Je frappe à la porte. 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai peut-être déjà eu l'occasion de dire, mais j'aime le répéter, il nous parle de plusieurs repas, on a parlé tout à l'heure d'un repas, mais là il est parlé du souper. C'est le repas du soir, je souperai avec lui. Il est spécial le souper. Parce que c'est la fin de la journée, normalement. On peut dire que si vous avez un dîner d'affaires, c'est plutôt à midi que se font certains rendez-vous déjeuner pour parler du travail, parler de ce qu'il y a à réaliser. Mais le soir est réservé à la famille et aux amis. Parce que c'est là où on arrête ses activités et on a du temps de qualité. Donc, le soir, le souper, c'est le repas auquel le Seigneur nous invite. Il veut qu'on ait ce moment avec lui. Ça ne veut pas dire que ça doit seulement se faire au soir, mais ça veut dire que ça illustre le fait qu'il se tient à la porte et il frappe. Et rappelez-vous bien que quelle que soit l'utilisation de ce passage de la Bible, on peut souvent le prendre dans un sens d'évangélisation, ouvrez la porte à Jésus pour qu'il rentre dans votre vie. Ici, le passage s'adresse à une église, donc des gens qui sont chrétiens, mais qui ont besoin d'inviter Jésus encore pour ce temps de qualité avec lui. 1 Pierre 1,15 nous dit que celui qui nous a appelés est saint. Celui qui nous a appelés est saint. Il est à part. Il n'est pas comme les autres. C'est pourquoi on peut trouver du secours auprès de lui. Et je veux tellement qu'on s'encourage tous les jours à pouvoir nous approcher de lui et lui laisser avoir ce moment avec nous. Parce que quand il est avec nous, ça nous fait du bien. Il peut nous éclairer, il peut nous parler de choses importantes de notre vie. On a aussi un équilibre parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous accaparent. Mais il y a un moment donné où on découvre de nouveau quelles sont les choses importantes. Il y a des choses auxquelles on donne grande importance, mais que finalement, ben, on pourrait aussi vivre sans. Alors j'aimerais encore dire avec vous cet appel de Jésus quand il dit « Venez à moi, vous tout ce qui est fatigué et chargé ». C'est dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tout ce qui êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. » Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le jour que nous mettons à part pour Dieu. Et j'ai d'ailleurs un petit titre à ce passage. Il dit « C'est la relation personnelle du disciple avec son Seigneur ». Et Jésus dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc venez à lui aujourd'hui, venons à lui, recevons de lui. « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc à nouveau, ce que nous devons faire avec ça, c'est le mettre en pratique, le mettre en pratique, le mettre en pratique. Venez à lui, trouvez du repos pour vos âmes, trouvez la paix intérieure. À partir de là, vous devenez fort et vous pouvez accomplir des choses que vous ne pouvez pas autrement. Sinon, vous allez vous agiter et vous ne saurez pas dans quelle direction aller. Un passage de l'Ancien Testament dit « À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Ça nous fatigue et ça ne sert à rien et ça ne nous donne même pas de satisfaction. Et en conclusion, je voudrais dire ce passage prophétique de Jérémie. Alors Jérémie, on a une référence au baume de Galade en Jérémie 46, verset 11. Galade, c'était donc une des régions d'Israël, nommée d'après une tribu d'Israël. Et 46, verset 11, il nous est dit, « Monte en Galade, prends du baume, vierge fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. » Alors pourquoi on dit ça? C'est parce que le baume de Galade était particulièrement réputé pour ses vertus de guérison. Il était réputé, comme on pourrait voir des réputations de certains produits, de certaines régions. Mais en Galade, vous savez que beaucoup de parfums ou de crèmes ou autres sont issus soit de telles plantes, soit de tels minéraux, etc. Donc, c'est une région où il y avait des choses qui poussaient, qui étaient très utiles pour créer ce fameux baume de Galade. Et donc là, il dit, même si tu prenais du baume qui vient de Galade, eh ben ça servait à rien, tu serais quand même pas guéri. Donc c'est pour montrer l'impact de ce baume. Et Jérémie, au chapitre 8 et verset 22, il pousse aussi ce cri. Il dit, « N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Alors à nouveau, il dit, voilà, le baume de Galate, si seulement on pouvait l'utiliser, on pourrait guérir, mais là c'était le cri de ce peuple qui s'éloignait de Dieu et que malgré la multiplication des traitements, il n'y avait pas de guérison. Donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que nous pouvons nous bénir mutuellement pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et quels que soient les bienfaits du baume de Galate ou d'autres soins, nous pouvons recevoir cette présence de Dieu qui va nous faire du bien. Et c'est là que je voudrais dire ce verset que nous avons lu tout à l'heure pendant le culte, mais on y revient, dans Actes 3, verset 20, « Nous prions pour que chacun d'entre nous, voilà ce qui se manifeste, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il y ait des temps de rafraîchissement dans ta vie, dans la vie de chacun d'entre nous. par rapport à des épreuves, par rapport à des fatigues, par rapport à des tourments de toutes sortes, et que sais-je encore, vous savez mieux ce qui vous arrive, mais des fois on ne sait pas comment réagir. Mais croyez en cette promesse de Dieu. Il y a des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie vers vous celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, le même qui vous a appelé. Il vous appelle à lui aujourd'hui, il a appelé, il veut nous rassembler, il frappe à notre porte pour avoir ce temps de communion avec lui, où il veut souper avec nous, et donc il nous est dit, celui-là, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc, le Seigneur, nous connaissons son parcours, il est venu, il a quitté le ciel de gloire, il a souffert, il est ressuscité, et il est retourné au ciel. Le ciel l'a reçu maintenant jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Ça veut dire, il y a un moment où il y a des choses qui vont changer sur terre et seront rétablies, la volonté de Dieu pour l'être humain. Et nous sommes en route pour ça, mais en attendant jusqu'à ce que, eh bien, qu'il y ait ces temps de rafraîchissement pour chacun d'entre nous. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org.